Eh, les filles, on vient dire bonjour là. Allez. Allez. Voilà.
À cette époque-là, elles sont un peu feignantes comme elles ont
à boire et à manger plus qu'il ne leur faut. Allez.
J'ai toujours été attiré par ce métier-là. Donc, je suis rentré en formation agricole en 96 en BEP. Donc, s'en est suivi un bac pro, un BTS. Et puis, après le BTS, je ne me sentais pas du tout prêt à m'installer. Donc, j'ai fait une dizaine d'années de salariat dans le milieu agricole. Donc, ils m'ont emmené aussi bien à travailler dans une agence de presse en plein cœur de Paris qu'à couper des choux dans le Léon en passant par des porcheries industrielles. Après une année à travailler dans la presse agricole à Paris, j'ai eu besoin d'un grand bol d'air. J'ai décidé de partir, découvrir un petit peu le monde. Donc je me suis dit, je suis issu du milieu agricole. Les Bretons, on est bons, mais on a meilleur que nous, c'est les Néo-Zélandais. Donc je vais prendre mon petit sac à dos et je vais aller voir comment est-ce qu'ils font pour être aussi performants. Et c'est vrai que le système néo-zélandais est un système assez peu ancien. Donc en termes bocagers, par exemple, on a des structures qui sont très cohérentes. Donc c'est souvent des fermes, par exemple, de 1000 hectares. C'est un grand rectangle, on met une salle de traite au milieu, c'est facile. Alors que historiquement, ici, on a quand même plutôt des toutes petites structures qu'on a un petit peu rattachées dans tous les sens avec toutes les contraintes qu'on peut avoir en termes de bocage, en termes de réseau routier, en termes de rivière. Donc c'était un petit peu plus dur de projeter ce système-là en France puisque si on n'a pas cette logique de tout foncier accessible aux bovins, tout tombe à l'eau. Et quand j'ai cherché ma ferme, c'était vraiment un de mes critères, c'était dans le secteur et avoir une grosse surface accessible aux bovins. Et ce qui est le cas puisqu'on a la quasi-intégralité qui est accessible aux bovins pour le pâturage sans les mettre dans une bétaillère ou quoi que ce soit. Donc, oui. Partie des grosses forces. Nous, ce qu'on voulait, c'était de la rémunération du temps de travail. Comme je dis, quand on passe le cap de l'installation, de devenir agriculteur, c'est pas pour gagner un SMIG. Ce qu'on voulait aussi, c'était un outil où est-ce qu'il y a un fort potentiel de capitalisation. Et après, il y a aussi un regard écologique, puisque c'est une approche quand même qui, je pense, est plutôt positive pour l'environnement, donc une certaine satisfaction personnelle à ce niveau-là, quoi.
On a des plantes carnivores dans le Finistère. Ça pourrait paraître exotique quand on évoque ce genre de plantes, mais en fait, sur des milieux comme ça... Les plantes ont énormément de difficultés à trouver du minéral pour se nourrir, et elles utilisent la protéine animale, quoi. Et on a entendu dans les médias récemment le désert acoustique au niveau des chants d'oiseaux dans beaucoup de régions de France. Ici, c'est plutôt la cacophonie. Quand vous allez de bon matin faire la tournée des vaches, on s'entend même plus penser. Si vous allez au lever du soleil, là c'est juste spectaculaire, quoi. Ça fait partie des plaisirs du métier.
Il y a quoi d'autre comme plaisir ?
Mon gros plaisir, c'est de voir mes bêtes en fait dans un milieu qui leur correspond en fait. Elles sont dans des pâtures, elles vont avoir du bocage pour s'abriter, du bocage pour se frotter. Une végétation qui leur correspond bien, qui est équilibrée, qui les fait se tenir en pleine santé. On voit beaucoup d'élevages où est-ce qu'on est obligé de minéraliser l'alimentation des animaux, donc on leur apporte des compléments minéraux. Nous, par exemple, les bêtes, elles n'ont rien. Pareil pour les antiparasitaires. Dans beaucoup d'élevages, on est obligé de traiter contre les parasites les bovins. Ici, compte tenu du système extrêmement extensif et de l'alimentation très variée, elles arrivent à s'auto-gérer au niveau des parasites internes. Le bovin, c'est une super machine quand c'est bien utilisé. Hein. C'est un super débroussailleur. Ça sait réouvrir les surfaces d'herbe et ça sait épandre tout ce qu'il faut pour rebooster la végétation derrière. Donc, maintenant, il y a tout ce qu'il faut, c'est assez impressionnant. On avait des milieux qui étaient très très fermés, notamment au niveau des landes, et rien que par la pression de pâturage, aujourd'hui on a quelque chose de beaucoup plus ouvert. C'est bien. On a trois troupeaux et chaque troupeau a ce qu'on appelle un break d'à peu près une semaine. Donc toutes les semaines, on les déplace de parcelles, de champs, d'îlots. J'ai appris avec des méthodes très, très, très techniques qui sont de mesurer en fait la quantité d'herbe présente sur chaque parcelle, d'estimer la pousse quotidienne et de diviser par la pression du GB qu'on met et tout. Mais aujourd'hui, c'est sur nos prairies très complexes, c'est vraiment du feeling et de l'habitude. Ouais, parce qu'il y a des parcelles, on peut être très surpris, il y a beaucoup de biomasse disponible, mais ça ne va pas du tout convenir aux bovins. Et du coup, elles vont très rapidement se lasser de cette parcelle-là. Et au contraire, il y a certaines parcelles où on est très surpris, mais elles arrivent à rester dedans longtemps. Donc en général, mon meilleur indicateur pour le pâturage, c'est chez les bovins. Donc je vais les voir. Elles commencent à beugler, je sais que d'ici le lendemain, il faudra que je les change. Voilà. Bon, on va aller voir les lycopodes. Les lycopodes. Ah, on va vous montrer. Là, c'est le tout début. On revient pareil en août, elle fait 10 cm de haut. Quoi.
C'est ça la petite
voilà.
fougère.
C'est une toute petite fougère ouais, qu'on...
Celle qui rentre là.
Voilà, qui est vraiment typique des milieux extrêmement pauvres, extrêmement pelés. Quoi. Quand on est agriculteur, ça pourrait être un drame d'avoir ça à pousser dans ces gens. Parce que ça veut dire que rien d'autre peut pousser. Ouais, et donc là voilà la fameuse carrière qui a été tout tirée à la main. Donc, c'était encore à l'époque du chemin de fer. Donc il y avait des gens qui habitaient là, il y avait une petite maison et du coup ils tiraient à la baramine la pierre là et ils l'emmenaient via des petits chemins, rempirer les routes alentour.
Comment vous savez qu'il y avait une petite maison là ?
Bah après c'est par la personne à qui j'ai repris la ferme, donc il y avait son grand-père qui est arrivé là sur cette période. Il aime bien venir là et raconter toutes ces histoires humaines et naturelles qu'il a pu voir là. Ouais. Et donc ouais, ça c'est des lieux typiques. Hein, voilà. C'est ce que je dis, moi je serais arrivé là sans me soucier un petit peu d'écologie. Je m'aurais dit oh, une super plateforme alors, pour stocker du fumier, ça va être top quoi. Parce que c'est rempierré, parce que voilà, c'est facile d'accès en tracteur, mais ça aurait été juste un drame écologique sans nom de faire ce genre de choses. Donc c'est important que l'agriculteur il réalise que son activité, soit c'est de la nourriture. C'est-à-dire manger sainement, vous aurez moins besoin de médicaments. Et en plus, il est producteur d'eau potable. À savoir que nous, on a trois captages d'eau potable sur l'eau Kefret. Enfin, on a trois captages d'eau sur la ferme qui alimentent l'eau Kefret l'année dernière et une partie de Brennilis en eau potable. Donc, on en est directement concerné par ça et la qualité de l'air aussi. Et ce qu'on réalise encore moins aujourd'hui, c'est que la terre arable, la terre cultivable, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est très très long à constituer. Et compte tenu des pratiques de certains, voilà, les rivières qui coulent marron, voilà, c'est pas beau. Mais moi, en tant qu'agriculteur, je vois un drame, parce que je vois tous les limons, tout le potentiel fertile des sols qui part directement dans la mer. C'est un vrai drame qui est en train de se jouer, parce qu'on ne le réalise pas. Je comprends pas les gens qui sont le long des petites communales à avoir rasé les talus le long des fossés quoi. Et puis tous les ans là, limite à mettre une roue dans le fossé pour aller labourer, ben, je comprends pas. On laisse un talus le long d'un fossé, ça fait que du bien. Je comprends pas cette envie d'aller chercher ce petit centimètre de terre supplémentaire en sachant que la première averse, c'est directement dans le fossé quoi. Mais c'est sûr que d'un point de vue purement travail, le bocage est une astreinte. Hein. C'est-à-dire que vous avez une grande parcelle, vous n'avez pas de talus, vous n'avez rien, c'est facilement mécanisable, vous n'allez pas casser les rétroviseurs de vos tracteurs, les feux de vos tracteurs, vous n'allez pas passer une partie de l'hiver à faire de la tronçonneuse pour aller couper des branches. Donc ouais, c'est une grosse, grosse contrainte. Nous, c'est le travail en hiver, c'est l'entretien des talus. Hein. Ici, ça va être la zone la plus, ce qu'on appelle Carguévin-Margilly, la plus facile à travailler. C'est au ras du hangar. On a des parcelles qui sont relativement conséquentes, de 2 hectares, avec des beaux talus. Elles sont relativement rectangulaires. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas trop de cailloux. Là, Là, c'est du bonheur, cette partie de la ferme.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'activité ?
Ce qui est le plus dur dans l'activité, c'est la pluie. Incessante pendant des jours et des jours, quelquefois. Ça, c'est rude. Ah ouais, non, c'est... On est content d'avoir de la pluie, mais des fois ici, ça pousse le bouchon un peu loin. Après, ça complique tout, puisque nous, on est sur des systèmes très pâturants, donc les bêtes sont dehors. Alors, ça gadouille, le tracteur gadouille, le bonhomme gadouille. C'est pas plaisant. Ouais, des fois, c'est ouais, sur décembre, janvier, février, mars, c'est compliqué. Hein. On aimerait bien être ailleurs. Mais là, ouais, on est sur des pluviométries à 1600 mm d'eau assez fréquemment par an. Donc, c'est quand même pas simple. Depuis quelques années, au niveau national, est organisé ce qu'on appelle le concours des prairies fleuries. Après, faut pas imaginer les belles jachères fleuries qu'on voit semer chez certains agriculteurs. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de récompenser les agriculteurs qui arrivent à trouver un juste équilibre entre le potentiel écologique d'une pâture et son potentiel économique. Donc, moi, j'ai tout de suite adhéré au principe, puisque pour moi, comme je le disais tout à l'heure, l'agriculture doit rimer avec nature. Donc, dans le cadre de la première édition organisée par le Parc naturel d'Armorique, j'ai présenté deux pâtures sur deux parties différentes. Donc, une partie qui était en exploitation principalement par le pâturage et une autre en exploitation par la fauche. Donc, on présente brièvement son exploitation et les pratiques qu'on a sur ces parcelles. Et après, courant du printemps, on a un jury composé d'experts en écologie et d'experts en agricole qui viennent visiter les parcelles. Et après, il y a différents échanges sur vraiment ce qu'on retrouve d'un point de vue biodiversité et ce qu'on retrouve d'un point de vue potentiel d'affouragement des bovins. Et donc, suite à ça, on a eu la chance d'avoir notre parcelle pâturage qui a remporté le premier prix du concours et la prairie de Fauche qui a été récompensée hors compétition pour sa valeur en biodiversité.
Comment on s'intègre sur un territoire où on n'est pas né où...
On va au bar. Non, blague mise à part, c'est vrai que dans une toute petite commune comme ça, le troquet fait partie des endroits de rencontre et où les gens vont, discutent. Donc ça fait partie, mine de rien, des endroits très sociabilisants. Donc j'ai été un petit peu au troquet, ce qui n'était pas du tout dans mes pratiques. Et après, j'ai eu la chance d'avoir vraiment, par le biais du repreneur, une réelle envie de nous intégrer. Et donc, il a fait le tour de la commune et des alentours pour nous présenter, pour qu'on connaisse un petit peu tout. Et puis après, au niveau agricole, ouais, c'est pareil. Moi, je m'étais impliqué dans le GAB. Après, au niveau local, voilà, on se rencontre entre nous. Donc, on n'est pas resté cloîtré, enfermé chez nous, la tête dans le guidon. On s'est tout de suite ouvert à ce qui se présentait. L'exemple que j'aime bien citer, c'est par exemple la première année où je suis arrivé ici. Donc, je fais mes fauches de foin. Donc, beaucoup d'ambition. Je mets 24 hectares de foin par terre et là... Le nouvel arrivant, il s'est chauffé par la météo, pauvre pluie. Et donc j'étais un petit peu en peine parce que j'avais un tout petit faneur pour récolter mon foin, un tout petit andaineur. Et quand les voisins ont vu ça, ils sont venus spontanément en fait m'aider à faire mes récoltes de fourrage. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs, quoi. Donc forcément, ça crée du lien, ça crée du réseau. Hein.
Même si vous n'êtes pas sur la même démarche.
Même si on n'est pas sur la même démarche, ce qui compte, c'est vraiment la démarche territoire. Voilà. On est agriculteur, on est éleveur sur un même territoire, donc on n'a peut-être pas la même vision des choses, mais au final, on partage les mêmes galères. Donc on est là pour s'entraider, et ça, c'est vrai que c'est plaisant. Et jamais rencontré ailleurs. Donc chapeau les mondaris.